10 en temps universel à suivre dans une poignée de secondes, ses 8 milliards de voisins.
Midi 10 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le Plat de Résistance et comme chaque vendredi dans ce Plat de Résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Nous rappelons que les Reclusiennes sont un événement annuel qui se déroule depuis 12 ou 13 ans et ça se passe à Sainte-Foy-la-Grande. Voilà.
Voilà.
Autour de la pensée d'Élisée Reclus. Oui. Alors Bernard, tu es avec nous ?
Oui, je suis là. Je vous remercie de votre invitation. Je fais partie de l'équipe des organisateurs depuis 2013. Voilà.
D'accord. Bon. Alors, Bernard, cette année, le thème est cohabiter. Peux-tu nous dire ce qui vous a conduit à choisir ce thème et comment vous l'avez décliné tout au long de ces quelques jours, puisque il faut rappeler, les Reclusiennes, c'est du 9 au 13 juillet, c'est ça ?
C'est ça. Ça commence le mardi 9 à 15h et ça se termine le samedi 13 juillet de manière festive. Il y a des animations sur les 5 jours. Le thème habiter et cohabiter, il a été choisi comme tous les ans juste après l'édition précédente et il s'est imposé comme une suite de l'édition précédente. L'année dernière, c'était partagé, c'était le thème du partage. Et donc partager, cohabiter, c'est évidemment très lié. Alors on est un petit peu maudit sur les choix de titres, parce qu'évidemment cohabiter aujourd'hui et avec un début du festival le 9 juillet dans le contexte politique français, ça résonne bizarrement, voilà,
oui.
Et de manière un peu inquiétante.
Et oui.
Alors. C'était, on le savait, un thème sensible dans un contexte général de guerre au pluriel, de peur de l'autre, de discrimination, de crise du logement, de difficulté à se loger pour des raisons sociales, pour les jeunes, dans les villes, pour les femmes, dans beaucoup de situations. À ce titre, c'était forcément intéressant de le traiter. Dans la pensée d'Élisée Reclus, je vous cite un bref extrait, « La ville reflète l'esprit de la société qu'il a créée ». Donc on voit là que c'est un thème complexe, qu'on peut approcher de multiples façons. Et donc pour le comprendre et pour en débattre en bonne intelligence, pour comprendre ce que veut dire habiter, eh bien on propose des échanges avec des approches psychologiques, anthropologiques, de la sociologie, de l'architecture, de l'urbanisme, de la politique de la ville, une intervenante qui travaille sur la cartographie, une approche des migrations. Voilà, donc ça c'est le côté un petit peu intellectuel, c'est un peu le contenu des échanges. Et ensuite, sur la forme, il y a, comme les autres années, une multiplicité de lieux et d'événements et une grande variété de situations qui sont proposées au public.
Et oui, c'est ça, il y a des tables rondes, il y a des expositions,
Alors,
ça se décline
conférences,
de manière... Oui,
mmh. Conférences, tables rondes, cinéma au cinéma La Brèche,
oui.
Avec un film qui parle du retour au pays d'un combattant de la guerre de Bosnie en son temps, Looking for Horses, mais qui sera aussi avec un débat qui sera aussi animé par Yael Sivan, qui est un documentariste et qui lui a beaucoup travaillé sur le conflit israélo-palestinien.
Mm-hmm.
Donc du cinéma avec du débat, de la musique avec un concert en extérieur sur la place de la mairie, Master Funk.
Ça c'est comme tous les ans, on peut dire le concert qui accompagne le repas. c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça.
Il y a et beaucoup d'ambiance en général.
Oui, vous êtes venu, vous connaissez.
Oui.
Donc c'est le concert sur la place, avec évidemment tous les habitants de Sainte-Foy, puisque c'est aussi des événements hebdomadaires. Beaucoup de choses à voir et à manger, très sympathiques autour de la place.
Voilà. Oui, parce que c'est vrai que ce qui est sympa, c'est cet esprit de partage. Bon, il y a un partage entre les personnes qui viennent pour assister aux tables rondes, visiter les expos, écouter les conférences. Et puis, il y a aussi ces rencontres avec les personnes qui habitent Sainte-Foy-la-Grande. Ça, c'est aussi une idée qui est maintenue au fil des années, des reclusiennes, intégrer la population locale au maximum à ces échanges.
Oui, tout à fait. Et c'est des échanges assez approfondis parce que finalement, on a des intervenants qui viennent parfois d'assez loin. Qui ne connaissent pas Sainte-Foy-la-Grande, pas nécessairement, qui sont des universitaires ou des artistes, et qui, du coup, en étant hébergés chez l'habitant, rencontrent les foyens, la vie locale, et puis réciproquement, pour nous qui hébergeons, c'est aussi l'occasion de discuter de manière très informelle avec des personnes qu'on rencontrerait difficilement autrement.
Oui.
Oui, c'est un côté très sympa.
Voilà, la convivialité. Et au niveau des thématiques ou des titres des tables rondes, est-ce qu'on peut revenir sur ces tables rondes ou conférences de manière à ce que les auditrices et auditeurs aient une idée un peu plus concrète de ce qui leur est offert?
Alors, sur les tables rondes, le mardi 9 après-midi, on parlera de la difficulté d'habiter, de l'errance, la difficulté à se loger pour des personnes qui sont en difficulté, en souffrance psychique ou pour des personnes victimes de violences, des femmes victimes de violences, sous l'angle plutôt du témoignage et sous un angle très, très positif, voilà, il y a des solutions et il y a des initiatives et ça produit un savoir d'expérience qui est tout à fait intéressant. Le mercredi 10, on sera sur la question le matin des migrations, habiter en migration, et l'après-midi sur la question de la propriété avec Gérard Mordillat, qui est un cinéaste et documentariste assez connu,
oui.
Qui a travaillé, qui a produit quatre documentaires, une série de quatre sur la propriété. Le jeudi, on parlera de habiter avec reclus, donc les questions de voisinage, un peu d'histoire sur la manière dont reclus lui-même vivait l'amitié, les relations avec les proches. L'après-midi, habiter avec la nature. Et puis le vendredi, peut-être un moment fort du festival, la question d'habiter l'inhabitable, avec deux introductions très différentes, une sur Fukushima et l'autre sur la Gaza. Et à partir de cette conférence, ces interventions, et on aura un temps d'échange sur ces thèmes-là. Et puis on aura un autre débat qui nous est imposé par l'actualité, qu'on a appelé cohabiter et maintenant. Et là, on va proposer plutôt des ateliers et une synthèse de ces ateliers. Sur la manière dont on peut vivre, cohabiter, dialoguer, exister, méditer dans un contexte, dans l'adversité.
D'accord.
Oui. Dans une période.
Et donc, ces ateliers, ils pourront être en inscription spontanée, enfin, sur le moment. Comment est-ce
tout
que...
à fait.
Oui.
Alors, chaque conférence et table ronde offre un temps d'échange et de débat avec le public. Là, en plus, quand on va parler dans les ateliers, il y aura, c'est ouvert à tous, Mm-hmm. Le temps sera beaucoup plus long, hein, donc on aura plutôt une séquence d'une heure et demie, deux heures. On aura aussi un atelier de cartographie, je crois que c'est le jeudi matin, avec Nettis Zwer, qui est une historienne, mais qui est spécialiste des cartes, et qui travaille sur les cartes rebelles. Et donc, la manière dont on peut inscrire sur une carte sa manière de vivre, ses aspirations, et démontrer comment on veut que le territoire qu'on habite soit.
Oui.
Voilà, là aussi, ce sera ouvert à, c'est ouvert à tous.
Oui, oui, mais c'est une belle idée, ça. Enfin, c'est déjà un titre prometteur, les cartes rebelles. Bon, ça intrigue beaucoup.
Oui, il y aurait aussi une exposition de Nettis Zwer avec ces cartes rebelles, là, pour donner tout un tas d'illustrations de ce qu'on peut faire en cartographie. Voilà, les cartes sont à l'évidence des instruments de pouvoir, mais on peut les retourner les utiliser justement pour se défaire de ces oppressions et de ces pouvoirs qui s'imposent à nous de manière sournoise.
D'accord. Mm-hmm. Bon, mais c'est vraiment tout à fait alléchant. Et puis, bon, on n'a pas parlé des apéritifs littéraires, de tous les côtés. Apéritifs littéraires, mais qui sont aussi des lieux de travail. Parce que je vois apéritifs littéraires, les pays habitables, apéritifs littéraires, comment habiter le monde contemporain en artiste, alors qu'on combat la censure, l'inégalité ou l'injustice. Bon, voilà, donc c'est la convivialité, mais c'est aussi la réflexion le partage d'idées. Mmh.
On peut ajouter un troisième apéritif littéraire qui sera autour de Philippe Pétier.
D'accord. Bon, on va le voir.
Que vous connaissez sans doute. qui parlera des figures de l'anarchisme. Voilà.
Ah, très bien.
Son nouveau livre. Ouais,
oui. Oui, oui, très bien. Bon, eh bien, écoute, c'est tout à fait sympathique et tout à fait attractif. De toute façon, nous, on a une sorte d'attraction passionnée et irrésistible, donc nous y serons. Et voilà, on ne peut qu'inviter les...
Oui, on mettra le programme sur notre blog avec les horaires, parce que voilà, en gros, c'est de 10h à 20h, comme ça à peu près.
Oui,
de 10h à 20h, et après il y a tout l'informel qui se prolonge jusqu'à 23h, et puis quand il y a des concerts, c'est aussi c'est bien sûr plus tard. Toutes les informations sont sur le site reclusienne.com, reclusienne au pluriel.
Très bien. Voilà, d'accord. Bon.
À partir de votre site à vous.
D'accord, mais très bien. Bon, mais merci Bernard, et puis voilà, on se félicite de vous retrouver bientôt à Sainte-Foy-la-Grande, donc. À partir du 9 juillet. Voilà,
merci
à bientôt.
Beaucoup.
Au revoir, au revoir, à bientôt.
Allez, au revoir. Maintenant.
La jeunesse emmerde le Rassemblement National.
Il doit durer.
Les hommes se comportent comme des porcs de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts.
Porcherie, 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 porcherie.
Nous sommes à l'heure des fanatiques,
folie, oppression, scientifique.
Nous sommes dans un état de jeûne.
Le partout c'est la loi, le flingue.
Porcherie, 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 porcherie.
Prostitution organisée,
putréfaction gerbinosée.
Le diable crève les porcs zombies, faites attention, on les tient.
Porcherie, porcherie.
Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans les cités dortoirs,
prisonniers derrière ton parloir.
Porcherie, 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 porcherie.
Et on finit les suspects cuits dans les fours du gouvernement.
En Europe, en Belgique, on pisse dans les bunkers de l'isolement.
Porcherie, 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 porcherie.
Un homme qui est quelques morceaux d'inanité par des bourreaux.
Des singes conduits à la démence.
Porcherie, porcherie.
D'un côté
système monétaire.
De montre l'ombre militaire.
Tout finit en règlement de compte. À coup de slag, le sang inonde.
Borgerie, borgerie. Borgerie, borgerie.
Bordela.
Borgerie.
Seymour.
Borgerie.
Reprise de l'emblématique titre de Berruyer Noir, Porcherie. Donc ça a été fait par un collectif éphémère d'artistes qui s'est appelé pour l'occasion Riposte Populaire. Donc ils sont nombreux, il n'y a pas que des artistes d'ailleurs, il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui se sont regroupés pour réenregistrer l'emblématique titre des Berruyer Noir. À titre d'exemple, hein, je ne peux pas tous les citer, mais il y a quand même un membre du groupe Trio, un membre des Fatal Picard, il y a Marcel et son orchestre. Voilà, ça vous donne une idée des gens qui se sont regroupés pour cette Porcherie 2024. Et nous sommes en plein dedans. Et vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
Et c'est parti pour
le débat d'actualité.
Donc voici quelques infos pour donner suite à nos chroniques internationales précédentes. Pour commencer par un aspect positif, Julian Assange a été libéré en échange d'un plaidoyer coupable, c'est-à-dire qu'il reconnaît les faits jugés. Il a été condamné aux 5 ans qu'il a déjà fait en détention provisoire en Angleterre et donc beaucoup de charges initiales contre lui ont été abandonnées. Mais sa condamnation n'est pas positive pour la liberté de la presse. Nouveau jugement pour Pinar Selek ce vendredi 28 juin à Istanbul. Une délégation internationale formée de plus de 60 personnalités du monde politique, universitaire, artistique et militant assista vendredi 28 juin au 5e procès de Pinar Selek à Istanbul. Innocentée à 4 reprises, cette sociologue et écrivaine franco-turque sera une nouvelle fois jugée sur la base d'un dossier toujours vide. Née à Istanbul en 1971, Pinar Selek grandit au sein d'une famille militante avec la figure de son grand-père, Aki Selek, l'un des fondateurs du Parti des Travailleurs de Turquie. Féministe et antimilitariste, enseignante à l'université de Nice, elle est réfugiée en France depuis 2009. Son cauchemar a débuté en 1998 lorsqu'elle est arrêtée le 11 juillet pour ses travaux sur la communauté kurde. La police l'accuse d'avoir un lien avec un attentat dans le bazar aux épices à Istanbul perpétré deux jours plus tôt et affirme avoir trouvé ses gels, du matériel pour fabriquer une bombe. Mais ses avocats ont rapidement montré qu'il n'y avait aucune preuve. Accusée de lien avec le PKK, elle subit plusieurs interrogatoires et des actes de torture pour lui extorquer le nom des personnes qu'elle a rencontrées durant ses recherches universitaires. Après la publication d'un rapport, 2 ans et demi plus tard, attribuant l'explosion à une fuite de gaz, elle est relâchée. Mais elle est de nouveau arrêtée en 2006 pour le même crime et acquittée en 2008. Face aux menaces, Pinar Selek est obligée de fuir son pays et obtient l'asile académique en 2012 en France. L'acharnement judiciaire se poursuit avec un mandat d'arrêt international qui l'empêche de quitter l'Hexagone. Le gouvernement turc, qui l'a qualifié de terroriste, obtient le 21 juin 2022 que la Cour suprême de Turquie annule l'ensemble de ses acquittements. En janvier 2023, est lancé un mandat d'arrêt international pour une énième audience fixée au 31 mars 2023, puis 29 septembre, sans aucune nouvelle pièce versée au dossier. Elle y répond par le Chaudron militaire turc aux éditions des femmes en 2023, approfondissant l'ouvrage Devenir homme en rampant. Et un autre renvoi à une audience le 28 juin 2024, à laquelle Pinar n'a pu se rendre. Le mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat court toujours à son encontre. Et début 2024, la Turquie a adressé à la France une demande d'extradition en confirmant le mandat d'arrêt international. Inlassablement, Pinar poursuit ses travaux universitaires et publie. Elle apparaît ainsi en tant que sociologue, écrivaine, poétesse, antimilitariste, féministe et anarchiste, et continue de s'intéresser à tous les groupes les plus marginalisés et discriminés, à toutes les minorités. Après Strasbourg, elle obtient donc un poste à l'université de Nice, grâce au soutien universitaire, et reçoit la nationalité française en 2017. À Nice, elle continue ses recherches tout en s'engageant dans le collectif féministe œuvrant sur la solidarité avec les femmes migrantes, notamment sur la frontière Italie-France. Voir l'article d'Hélène Hernandez dans le dernier Monde Libertaire de juin 2024. L'audience de vendredi devait décider de sa condamnation à la perpétuité. Elle est accusée d'avoir été modératrice d'une conférence universitaire en France, attribuée faussement par le gouvernement turc à une conférence du PKK. Pinar Selek est considérée avoir commis un acte terroriste. Aussi, le document l'incriminable peut être envoyé à Interpol pour l'arrêter à tout moment. Le juge a semblé être embarrassé par ce document et celui de l'avocat. L'audience est reportée au 7 février 2025. Kanaky, déportation de 11 militants kanaks du CCAT. Le 19 juin au matin, à Nouméa, une descente de forces de l'ordre a eu lieu dans le local de l'Union Calédonienne à Magenta et les principaux responsables de la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, ont été interpellés alors qu'ils se rendaient à une conférence de presse. 11 membres de la CCAT, pour la plupart responsables politiques et syndicaux, ont été placés en garde à vue sous plusieurs chefs d'inculpation très graves relevant de la criminalité organisée. Alors que les tensions baissaient dans le pays et que les appels au calme n'ont cessé de se multiplier, y compris celui de l'Union calédonienne, juste après les interpellations, l'État français persiste dans ses méthodes d'intimidation et son recours à la manière forte. Signalons l'autorisation de l'utilisation des grenades à main GM2L, assourdissantes et lacrymaux. Dans le contexte électoral actuel, la criminalisation de la CCAT et les perquisitions menées dans les locaux du UC cherchent à discréditer le mouvement indépendantiste kanak dans son ensemble, au risque d'aggraver davantage une situation très chaotique. Le collectif Solidarité Kanaky dénonce la brutalité de ses méthodes et ses arrestations abusives qui répondent une fois encore aux attentes des loyalistes les plus radicaux. Ces derniers n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés malgré les propos haineux tenus lors des manifestations et bien qu'ils aient été vus et reconnus comme responsables de milices pro-françaises, racistes et armées et à l'origine des exactions sur la jeunesse kanak à Nouméa et sa banlieue. Pour eux, l'impunité semble totale. Le collectif Solidarité Kanaky appelle aussi à une visite urgente d'une mission des Nations Unies et une enquête indépendante pour que soit établie vérité et justice pour les personnes assassinées et les blessées ces dernières semaines. Donc, d'après les notes de notre camarade Josefa qui a participé, le collectif Solidarité Kanaky a proposé une réunion publique le 27 juin à 18h à ce nom pour parler de la situation en Kanaky et la déportation des 7 Kanaks indépendantistes à 17 000 km de chez eux et elles, chacune et chacun isolé dans des maisons d'arrêt différentes et distantes de quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. Vous voyez donc Mulhouse, Dijon, Bourges, Blois, Nevers, Villefranche-sur-Somme, Riom. La décision a été prise à huis clos au tribunal de Nouméa. Daniel Wea, un représentant du mouvement Kanak, était invité à parler de la situation. Il a retracé rapidement les grandes lignes de la colonisation, des luttes anticolonialistes, les dernières années 88 à aujourd'hui, les accords de Matignon-Oudinot en 88, l'accord de Nouméa en 98, les deux référendums 2018 et 2020, et le troisième référendum, qui devait avoir lieu en 2022, a été avancé par l'État français en décembre 2021, alors que de très nombreux Kanaks étaient en période de deuil suite au Covid. On l'a vu, l'émission précédente, le deuil peut être très long pour les familles, plusieurs années. Le FLNKS avait appelé à la non-participation et donc avait participé à ce référendum presque exclusivement les anti-indépendantistes. Dans ces conditions, aucune surprise, une victoire du non à l'indépendance à 96,50% pour une participation à 43,87%. Et le soir du scrutin, Macron déclarait « Les Calédoniens et Calédoniens ont choisi de rester français ». Le vote sur le dégel a mis le feu, la venue de Macron l'a ravivé. La situation maintenant demande toute notre attention et notre solidarité pour les camarades indépendantistes emprisonnés en France, arrivés parfois sans linge pour se changer et qui vont avoir besoin de notre soutien. Voilà, donc il y a eu des réponses aux questions et donc une collecte a été faite pour le soutien des indépendantistes. Voilà, et pour finir, donc parlons de la, rapidement de la guerre à Gaza, appelée guerre Israël-Hamas au 268e jour. Les bombardements israéliens continuent sur Gaza, après les déclarations de Benjamin Netanyahou. Depuis le début de la guerre, il y a plus de 8 mois, 37 834 personnes ont été tuées, dont au moins 500 professionnels de santé tués directement, et plus de 86 858 ont été blessés au 29 juin, depuis le 7 octobre 2023, où 1195 personnes, majoritairement des civils israéliens, ont été tuées par l'attaque attribuée majoritairement au Hamas. Quelques points, échecs, erreurs et diversions, le ponton maritime américain, censé apporter de l'aide, s'est disloqué à Gaza pour la troisième fois. Chypre sert de base logistique pour Israël pour lancer une attaque sur le Liban, une invasion du Liban Sud. Et les USA ont amené un second porte-avions dans la région pour servir de base d'appui pour l'aviation israélienne en cas de destruction de ses apports aéroports militaires par le Hezbollah libanais. Les manifestations augmentent en Israël contre Netanyahou, mais un demi-million d'Israéliens ont déjà quitté le pays, le plus gros exode à ce jour, exode définitif. La dissolution du cabinet de guerre après le départ du centriste Benny Gantz ne change rien à la politique militaire de Netanyahou. Et les extrémistes se font encore plus vindicatifs en Cisjordanie et attaquent toujours les convois humanitaires pour Gaza. Israël, par son ministre de la Défense, Yoav Gallant, menace de ramener le Liban à l'âge de pierre en cas de guerre avec le Hezbollah. Le Hezbollah libanais a annoncé le jeudi 27 avoir bombardé une base militaire en riposte à des frappes israéliennes dont l'une a tué un de ses combattants. Des Israéliennes aux mains couvertes de peinture rouge symbolisant le sang participent à une manifestation près de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem appelant à des élections anticipées et à la libération des otages détenus à Gaza. Et pour Pascal Boniface, à court terme, Netanyahou peut aussi avoir intérêt à prolonger la guerre en pariant sur un retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Et aujourd'hui, je sens de l'inquiétude dans les chancelleries, parmi les experts civils ou militaires, qu'on aille vers la catastrophe en klaxonnant. Cette option est maintenant prise au sérieux.
L'éphéméride anarchiste.
C'est donc l'heure de notre éphéméride. Alors, celui-ci aura, une fois n'est pas de coutume, il aura un préambule. Primo, un petit rappel, l'exercice de l'éphéméride est contraint, car il est axé sur le mois en cours. Et secondo, l'équipe d'Achaïra s'octroie tous les ans une pause au mois d'août. Avec pour conséquence, de ces deux derniers points, de passer sous silence des figures anarchistes qui sont nées et décédées en août. Cette éphéméride les concerne donc, certains étant moins connus que d'autres, l'occasion de les découvrir. Donc le 6 août 1916, c'est la mort de Pierre Martin, dit le Bossu, à Paris. Ben, c'est un militant anarchiste, antimilitariste et pacifiste qui était né le 16 août 1856. Il travaille dès l'âge de 6 ans dans l'industrie textile. En 1879, il prend part à une très dure grève de 5 mois et devient un militant important du mouvement anarchiste. Après l'agitation sociale des mineurs de Montceau-les-Mines et l'attentat de la place Bellecour à Lyon en octobre 1882, il est arrêté avec de nombreux autres compagnons, dont Kropotkine. Ils sont accusés et condamnés pour s'être affiliés à l'Internationale, alors interdite en France. Libéré en janvier 1886, il reprend ses activités militantes. Arrêté de nouveau avec 17 autres anarchistes, hommes et femmes, après les émeutes du 1er mai 1890 à Vienne, il est condamné à 5 ans de prison réduite en appel à 3 ans. À Paris, où il se fixe, il devient administrateur du Libertaire. Et inscrit au carnet B, il s'oppose durant la guerre à l'Union Sacrée et au Manifeste des 16, participant aux côtés de Sébastien Faure et de Louis Lecoing à l'Action Pacifiste.
Le 6 août 1936, mort de Ramon Acine, à qui lui est assassiné par les franquistes. Militant anarcho-syndicaliste, pédagogue, écrivain, artiste, né le 30 août 1888 en Aragon, dès 1913, il s'intéresse aux idées anarchistes et prend part à Barcelone à la création de la rue La Ira, la colère. Il exerce comme professeur de dessin à l'école normale de Huesca et adhère à la CNT en 1918. Un article de soutien à l'anarchiste Juan Hachel, condamné à mort après un attentat, lui vaudra d'être emprisonné en 1924. Il donne de nombreux articles à la presse libertaire. Son œuvre artistique est très variée, dessins, caricatures, toiles peintes, mais aussi sculptures et collages surréalistes. Ah. Ami de Buñuel, il va produire son film « Terre sans pain » et... Buñuel a décrit, je ne sais plus où, mais par écrit sûrement, les conditions particulières de production du film. J'ai pu filmer Las Huldes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une région très défavorisée d'Espagne.
D'accord, d'accord. Merci. Et grâce à Ramon Acine, un anarchiste de Huesca, professeur de dessin, qui un jour, dans un café de Saragosse, me dit « Louis, si un jour je gagne à la loterie, je te paierai un film. » Il gagna 100 000 pesetas à la loterie et m'en donna 20 000 pour faire le film.
Oui, mais c'est vrai que Buñuel raconte ça dans un...
Ben oui, on n'a pas...
Mais oui, on vous le portera, on vous le prêtera.
Ah bon ? Ah bon ?
Oui.
Alors, continuons. Le 16 août 1902, naissance de Jean Barruet à Bordeaux. Ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Il y a des spécialistes autour de cette table. Son engagement militant date de 1919, avec sa participation à une manifestation révolutionnaire contre les cérémonies guerrières de la victoire. Il prend part en 1920 à la création du Parti communiste français, dont il sera un militant actif avant de rompre définitivement. En 1925, il se tourne vers le syndicalisme révolutionnaire et milite au sein de la Fédération de l'enseignement, CGTU. En 1936, après la réunification, il sera nommé secrétaire de la section girondine de la CGT. Il collabore au journal Le Cri du Peuple, puis reprend en 1934 l'Action syndicaliste, qui défend les thèses syndicalistes révolutionnaires. Sans illusion sur le Front populaire, tiens donc, et les élections de 1936, et face aux menaces de conflit, il adhère à la Ligue des combattants de la paix. Après la guerre, il reprend son activité syndicale à la CNT française, puis adhère à la Fédération anarchiste et devient un membre du groupe Sébastien Faure de Bordeaux. Responsable des relations internationales, il collabore au Monde libertaire, à la revue La Rue ou à la revue allemande Bifreyung. Il est également le traducteur de l'allemand de plusieurs ouvrages, dont La réaction en Allemagne de Bakounine, Anarchisme et marxisme dans la révolution russe d'Arthur Lenin et de différents textes de Stirner, sur l'éducation. Il meurt le 26 août 1989.
Le 22 août 1908, naissance de Henri Cartier-Bresson, en Seine-et-Marne, photographe mais aussi anarchiste. Il ne cesse de citer Bakounine. En 1937, il réalise durant la Révolution espagnole un documentaire sur les hôpitaux républicains, Victoire de la vie. En 1940, il est emprisonné par les Allemands, mais s'évade en 1943 et prend part à une organisation clandestine d'aide aux prisonniers. Le 1er mai 2000, il participe avec un recueil de photos vers un autre futur, un regard libertaire, aux manifestations de la CNT française. Il meurt le 3 août 2004. Et une citation, l'anarchie, c'est une éthique avant tout, une éthique d'homme libre. Relisez Bakounine. Si nos idées ont une valeur pour l'avenir, elles doivent en avoir aussi pour le présent. Et nous devons favoriser ou créer tout groupement d'individus décidés à produire ou à consommer en dehors du cycle capitaliste.
Et pour terminer, le 5 août 1910, mort de Constant Marie, dit le père La Purge. Il est né le 27 août 1838 en Normandie. C'est un ouvrier maçon. Il participe à la Commune de Paris et sera blessé durant les combats au Fort de Vendres. Mais il est aussi auteur, compositeur de chansons révolutionnaires, dont les plus connues sont Dame Dynamite, Le Père La Purge, à laquelle il devra son surnom, et La Muse Rouge. Constant Marie participe à de multiples fêtes de groupes anarchistes, mais la virulence de ses propos attire l'attention de la police, bien sûr, qui ne cessera de le surveiller. Et le 1er août 1894, son domicile est perquisitionné, des livres et les textes de ses chansons sont saisis. Arrêté, il est inculpé d'affiliation à une association de malfaiteurs et il passera plusieurs semaines en prison. Et je vous promets que dans la diffusion musicale de septembre, vous aurez le père La Purge.
L'agenda militant.
Alors, cet agenda, il est fourni, hein, parce qu'il porte à la fois sur juillet et août. Cela dit, on va pouvoir le simplifier par rapport à sa version écrite, qui sera en ligne, puisque nous avons évoqué pas mal de points déjà dans le corps de l'émission. Alors, commençons par demain, mardi 2 juillet, à 19h, à Bordeaux, au parc aux Angéliques. Alors, le parc aux Angéliques, c'est quai rive droite, en face du jardin botanique. En amont de la mobilisation internationale Stop Méga Bassine, qui est prévue les 20 et 21 juillet 2024, ben vous pouvez venir apprendre des chants de lutte pour faire sonner votre révolte. C'est amusant quand même, une répétition pour... Oui. Voilà. Donc il y a rendez-vous le 2 juillet, mais si vous n'êtes pas disponible le 2 juillet, il y a aussi le 11 juillet pour donc un temps de répétition ouvert à toutes et tous. Ensuite, le vendredi 5 juillet, à partir de 18h, là c'est à l'Athénée Libertaire, rue du Muguet à Bordeaux, et c'est un apéro de soutien au lieu... l'Athénée Libertaire, avec, pour l'animation, Le Cri du Peuple, nos amis de la chorale Le Cri du Peuple. Le samedi 6 juillet, à 19h, à Salle Saint-Augustin à Bordeaux, donc ça se trouve 20 places de l'église Saint-Augustin, Parole palestinienne, c'est la troisième rencontre organisée par Éducation Gaza 33, c'est une soirée littérature et musique palestinienne, une rencontre avec Jad Hilal, un auteur franco-palestinien, les lectures de poèmes de Mahmoud Darwish et Fadwa Toukan, accompagnés par le trio Oudési,
Il y aura aussi des témoignages et des expos. L'entrée est gratuite. Du 5 au 7 juillet, finalement, vous n'arrêtez pas, je ne sais pas si... ça va être difficile, hein. Surtout qu'après, à partir de là, il va commencer à falloir voyager. Comme certains et certaines d'entre vous sont en vacances, vous aurez peut-être la chance de vous trouver pas loin d'une de ces activités, de ces manifestations. Du 5 au 7 juillet, donc, c'est l'organisation Arrêt du nucléaire, ADN, qui organise ses 11e journées d'études à destination de tous les antinucléaires. Le lieu, c'est dans une maison collective près de la gare de Fromental. C'est dans la... Le 87, c'est la Haute-Vienne. L'hébergement est en chambre collective ou sous tente. Les repas sont préparés collectivement. En revanche, il y aura une participation de 30 à 50 personnes globalement pour les 3 jours.
30 à 50 euros
par personne. Euros, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, oui.
Personne.
Personne.
Mmh. Ah oui, ça
y
est.
Il y aura peut-être aussi des personnes qui participeront.
Quel enfer. Bon, l'inscription, je redeviens sérieuse. Contre l'ordre atomique, alors j'appelle, c'est contre, tiré du 6, l'ordre, en un seul mot, tiré du 6, atomique, @riseup.net.
Voilà. Non, parce que du 6 juillet au 7 septembre, c'est le groupe surréaliste de Paris qui organise la 19e exposition internationale du surréalisme à Saint-Cyr la Poupie, dont nous avons parlé tout à l'heure.
Voilà.
Cette exposition s'intitule Merveilleuse Utopie. Voilà.
Du 23 au 28 juillet, les rencontres libertaires du Quercy. Alors, c'est à 30 minutes au nord de Montauban ou au sud de Cahors, ou à 1 heure de Toulouse, vous avez le choix. Voilà, je n'ai pas plus de détails, mais une affiche sera en ligne sur notre site.
Voilà, oui, on n'a pas rappelé que du 9 au 13 juillet à Sainte-Foy-la-Grande, c'était la 12e édition des rencontres des Réclusiennes. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Bernard au téléphone qui nous a donné tous les détails.
Et du 16 au 21 juillet, dans le Poitou, c'est la semaine de l'eau pour laquelle vous vous serez entraîné à chanter.
Ah oui.
Voilà. ensuite, donc, le... C'est redoutable. Non, il y a le...
Ah non, il y a...
Ensuite, oui, on passe au mois d'août.
Oui.
Voilà, bravo, merci. donc, du 16 août au 18 août, à Saint-Amand-sur-Ormain, dans le 55. Là, je ne sais pas où c'est. Tu peux m'aider. 87, tout le monde
savait. Là, c'est l'aventure. Hein.
Oui, c'est l'aventure, oui, 55. Oui, oui.
Et voilà, c'est un jeu de piste.
Alors, si je pense que c'est où la Meuse.
Ouais, voilà,
oui,
c'est marqué.
Voilà.
Dans la Meuse.
Dans la Meuse. Le festival les Burlesques. En deux mots, pour que Bure puisse apparaître en entier, c'est-à-dire B-U-R-E, vous allez comprendre pourquoi. C'est le festival de résistance au projet toxique d'enfouissement de déchets radioactifs. Bon, donc ce festival pose une nouvelle fois son village de chapiteau, non loin de Bure, donc à l'endroit où doivent se déposer peut-être ces déchets. Donc il y aura là aussi des conférences, des tables rondes, des projections de films, voilà. Et la Meuse et la Haute-Marne, qui ont d'autres atouts, ne doivent pas être sacrifiés aux intérêts d'un nucléaire qui veut y enfouir ses déchets. Voilà, et pour terminer, donc j'ai, et peut-être vous allez pouvoir rajouter deux mots là-dessus, Progrès Esmeralda ou Philippe, du 10 au 15 août, les rencontres du Maquis pour l'émancipation près de Minerve, dans l'Hérault. Nous en parlons tous les ans.
Mais oui.
Avec un programme de conférences, débats, projections de films, théâtre vivant et de musique. Le camping est ombragé et la restauration est à prix libre pour les participants.
Voilà, donc oui, voilà. Il y a... Bon.
J'ai le programme que des 3 premiers juin, je n'ai pas la suite. Hein, je ne sais pas si vous l'avez.
On a la suite.
Là. Ah, vous avez la suite.
On le mettra en ligne. Hein.
Oui.
On le mettra en ligne.
Oui, juste, voilà. Tu peux donner quelques
intervenants, oui. Observatoire des armements, un film de Françou prenant sur la conquête de l'Algérie.
Oui, c'est un documentaire très bien fait.
Mm-hmm. Ensuite, Corinne Morel-Darleux, donc, j'arrive pas à lire le titre du film, du livre, essayiste et romancière engagée dans le réseau écologiste libertaire et paysan,
Et voilà, donc le récit de voyage, au journal qu'elle a donné pour titre. Mais j'arrive pas à lire. Ensuite, qui c'est, Fabien Lebrun sur un ouvrage critique sur l'usage du numérique. Ensuite, le remplaçant, journal d'un prof précaire, donc avec Nejib Sidi Moussa, paru aux éditions L'Échappée. Ensuite, un film, je suppose, Félaïne, puisque c'est un voyage caméra au point. Un retour au bled natal. Ensuite, lundi 12, c'est Richie Thibault qui a écrit Gitan, Gilet jaune et écologiste, un cheminement révolutionnaire.
Oui, et c'est un petit gars de Sainte-Foy-la-Grande.
Sainte-Foy-la-Grande, oui. Voilà.
Oui, qu'on a connu.
Et, voilà, et donc, Anatole Ducet poursuit avec Communauté et Révolution chez Gustave Landauer.
Voilà, c'est un livre qu'André a chroniqué, dont nous avons parlé. Oui. Voilà, et puis dans les jours qui suivent, il y aura aussi Isabelle Attard. Il y aura une série aussi de rencontres. Voilà, toujours très intéressant. Voilà, les rencontres pour l'émancipation.
Sous les arbres.
Et notre ami Christian Leduc qui animera les deux dernières soirées. Voilà, avec les spectacles Barricade et les chansons artisanales. Voilà, on peut se nourrir sur place et on peut camper sous les arbres et c'est très bien.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
la particularité dans le